Le journal vous est présenté par Jeanne Serin. Bonjour Jeanne.
Bonjour Nora, bonjour à toutes et à tous. Reprise des pourparlers pour un cessez-le-feu à Gaza. Une délégation du Hamas est arrivée au Caire, en Égypte. Le Hamas qui se dit déterminé à parvenir à un accord pour une trêve, alors que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken accuse le mouvement islamiste palestinien d'être aujourd'hui le seul obstacle pour un cessez-le-feu. Une campagne internationale s'organise pour sauver le rappeur iranien et opposant au régime Toumaj Salehi, condamné à mort par Téhéran. Nous parlerons de cette mobilisation avec l'invité de ce journal, l'anthropologue au CNRS, Shora Makarimi. La restitution des œuvres spoliées, une question qui taraude les anciennes puissances coloniales, mais pas que, la Suisse fait-elle aussi son introspection? Nous irons à Genève visiter la nouvelle exposition du musée d'ethnographie qui interroge la provenance de ses collections. Et puis en France, le gouvernement subit un premier revers dans son projet de loi d'orientation agricole. Les explications de Julie Paco en fin de journal. Des pourparlers à qui tout double. Une délégation du Hamas est arrivée ce matin au Caire pour une nouvelle série de négociations sur la proposition de trêve dans la bande de Gaza avec Israël. Israël qui menace de lancer une opération terrestre à Rafah, ville frontalière avec l'Égypte, malgré les mises en garde internationales. Le patron de la CIA, Williams Burns, se trouve également dans la capitale égyptienne, Christian Chéneau.
La délégation du Hamas est menée par le numéro 2 de la branche politique du mouvement islamiste dans la bande de Gaza, Khalil El-Haya. Depuis une semaine, les médiateurs américains, égyptiens et qatariens attendent une réponse à leur dernière offre de trêve de 40 jours proposée fin avril. Le Hamas se dit être dans un état d'esprit positif pour entamer ces nouvelles discussions du Caire. L'un des points d'achoppement à ce stade, ce sont les termes de la trêve. Le mouvement islamiste insiste sur un cessez-le-feu définitif, tandis qu'Israël souhaite une pause dans les combats. En tout cas, Anthony Blinken, le patron de la diplomatie américaine, fait porter la responsabilité de l'impasse des pourparlers sur le Hamas, tout en mettant en garde Israël contre les conséquences d'une éventuelle offensive militaire sur Rafah, ville frontalière avec l'Égypte, opération qui pourrait, selon lui, causer des dommages au-delà de l'acceptable. Selon le Wall Street Journal, qui cite une source égyptienne, Israël donnerait encore une semaine au pourparlers avant de lancer son attaque sur Rafah.
C'est l'un des visages du mouvement Femmes, Vie, Liberté en Iran. Le rappeur Toumaj Salehi a été condamné à mort par un tribunal iranien le 24 avril dernier pour avoir notamment soutenu les manifestations contre le régime organisées après la mort de Mahsa Amini, cette jeune iranienne morte pour avoir porté un voile mal ajusté. L'annonce de la condamnation de Toumaj Salehi a suscité une vive réaction dans le monde entier. À Paris, dimanche dernier, plus de 500 personnes étaient réunies pour réclamer sa libération. Pour en parler aujourd'hui avec nous en studio, Shora Makarimi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue au CNRS, spécialiste de la violence d'État, auteur du livre « Femmes, vie, liberté » publié en 2023. Et cette semaine, vous rédigez un texte pour le média en ligne AOC à propos de cette condamnation à mort. Tout d'abord, est-ce qu'on peut rappeler aux auditeurs brièvement qui est Toumaj Salehi? C'est un artiste, mais c'est aussi un militant.
Oui, absolument. Moi, je dis que ce n'est pas un rappeur engagé, mais c'est plutôt un opposant qui a trouvé une forme de combat. Vraiment, c'est une machine de guerre. Et c'est notamment le rap, parce que il écrit ses chansons et il fait des vidéos, il produit ses vidéos depuis l'intérieur de l'Iran et depuis plusieurs années. Et il transgresse toutes les lignes rouges, c'est-à-dire qu'il va chanter contre la corruption en se filmant devant la Banque nationale. Et jusque-là, en fait, les paroles radicalement opposées à la République islamique pouvaient avoir lieu, mais à l'extérieur. Et jamais elles ne pouvaient exister dedans. C'était un peu le pacte social, c'est-à-dire qu'on était réformiste à l'intérieur, on ne pouvait pas transgresser certaines lignes rouges. Et Toumaj l'a fait, ce qui fait que très vite, il est entré en clandestinité parce qu'il ne s'est pas rendu aux convocations de tribunaux révolutionnaires. Et ça, je parle d'avant le soulèvement 2022. Et quand il a été arrêté en novembre 2022, au cœur du soulèvement, auquel il participait, il était déjà en clandestinité. Et il participait à ce soulèvement comme il avait participé à celui de 2019. Il disait « Je suis un survivant des émeutes de 2019 où la jeunesse des quartiers populaires s'était soulevée ». Il avait aussi écrit des chansons féministes pour dénoncer la condition des femmes. Et il est resté un an en prison. Il a reçu une peine à l'automne dernier de plusieurs années de prison. puis il a été gracié, il est ressorti de prison en liberté conditionnelle et immédiatement il a recommencé, il a repris sa résistance à son exact point de congélation, et il a recommencé à être aussi radical qu'avant. Et ça c'est une pratique qu'une autre militante syndicaliste, un autre visage important du soulèvement Sepideroulian a eu. Dès qu'elle est sortie de prison, elle a demandé le renversement du guide suprême et elle a été tout de suite réarrêtée. Mais ces gestes-là, ces façons de résister montrent que l'emprisonnement et la répression ne vont pas reconfigurer, ne vont pas changer la forme de la résistance et que celle-ci ne rentrera plus dans sa boîte et ne reprendra plus un visage réformiste, elle va rester radicale. Et donc, Toumadj a été kidnappé en novembre, peu après sa libération. Il a été rejugé et condamné à mort.
Oui, justement, vous expliquez que ce mouvement de contestation qui a suivi la mort de Mahsa Amini en 2022, il ébranle tout un système de valeurs contestataires qui prévalait jusqu'alors, et notamment une valeur, celle de la prudence. En quoi cela est-il nouveau en Iran ?
Alors, prudence, patience, modération, si on se souvient, c'était le slogan de campagne du président Khatami, du président réformateur Khatami, qui portait un immense espoir de réforme démocratique. Et l'espoir de démocratisation du pays est passé par le réformisme durant plusieurs décennies. Et c'est lié à l'adaptation des stratégies de lutte aux conditions concrètes du pays, qui sont, tant qu'on ne traverse pas des lignes rouges, on a une relative liberté, des possibilités d'action. Et puis, à un certain moment, il y a certaines choses auxquelles il ne faut pas s'attaquer, dont le voile obligatoire. Et là, par contre, on passe dans autre chose. On passe dans les condamnations à mort, les tortures qui peuvent, elles aussi, mener à la mort, etc. Et en fait, cette valeur de prudence avait été co-construite à la fois par la mise en spectacle de la violence d'État, les exécutions massives dans les années 80, les tortures, etc. Et puis par tout le secret et la terreur, parce qu'on ne savait pas ce qu'il advenait. Et notamment, par exemple, le massacre de 88 qui a fait plusieurs milliers de morts en prisonniers opposants en quelques mois, a été complètement tabou comme ça durant très longtemps. Donc en fait, cette économie du silence et du spectacle de la violence avait créé une terreur qui faisait que les Iraniens aussi avaient accepté finalement ce refaçonnement des valeurs. On va être antagoniste, être radicalement opposé à la République islamique peut nous valoir la mort et ça sera de notre faute. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes têtus, c'est nous qui sommes immatures. Et donc du coup la prudence était devenue une forme de maturité et la seule voie possible de résistance. Et c'est tout ce système-là, cette économie de valeurs qui a été renversée, je pense depuis 2017, fin 2017, mais très clairement depuis 2022. Et Toumadj en est une illustration et une incarnation.
Merci beaucoup Shohram Hakarami, vous êtes anthropologue au CNRS et autrice, on le rappelle, du livre « Femme, vie, liberté, écho d'un soulèvement révolutionnaire en Iran » publié aux éditions de La Découverte en 2023. Restituer ou conserver les œuvres d'art spoliées pendant la colonisation, la question taraude tous les grands musées depuis plusieurs années, et y compris dans les pays qui n'ont pas eu d'empire colonial. C'est le cas de la Suisse, mais où nombre de citoyens ont participé à la colonisation, ramenant avec eux quantité d'objets aux origines incertaines. Dans sa nouvelle exposition, le musée d'ethnographie de Genève a décidé d'interroger la provenance de ces œuvres d'art. À Genève, Jérémy Lanche.
Quand on se balade dans un musée, on a l'habitude de se demander qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que ça représente, moins souvent d'où ça vient. Et c'est exactement ce qu'a voulu Floriane Morin. C'est la commissaire de l'exposition Mémoire Genève dans le monde colonial.
C'est une question cruciale de l'exposition, la première qu'on pose. Mais les collections ethnographiques, ce sont aussi des objets qui arrivent en Suisse au XVIIIe siècle, avec les familles qui ont dans leurs intérieurs des objets de curiosité qui viennent des colonies, des régions où elles ont des plantations, etc.
Exemple avec ces statue Kota, originaire d'Afrique centrale, présentée en vis-à-vis d'objets appartenant au collectionneur genevois qui les a ramenés en Suisse, manière de l'exposer comme lui a exposé ses statues, sans comprendre que les paniers qui les entouraient étaient utilisés pour abriter des reliques. C'est ce qu'explique Jean-Didier Ecori, issu de la culture Kota. Il a contribué à l'exposition.
Le mérite de cette exposition, c'est de donner une visibilité à la spiritualité des Kota. En venant ici, je me réconcilie avec mon passé.
Pour autant, tous les objets présentés ici n'ont pas vocation à être restitués, rappelle la directrice du musée, Karine Ayelé-Durand.
La restitution, ce n'est pas une mode, c'est une responsabilité. Quand on prend une décision d'une restitution, c'est parce que ça a du sens. parce qu'on rentre en discussion avec des personnes qui nous font bien comprendre que ces objets sont mieux là où ils sont quand on les restitue.
Le musée a pourtant rendu plusieurs œuvres l'an passé, 3 momies vieilles de 900 ans à la Bolivie et 2 objets sacrés à un peuple autochtone d'Amérique du Nord. L'un de ses membres était tombé dessus par hasard en visitant le musée. Ils ont été retirés le jour même de sa visite.
Jérémy Lange à Genève. Une marche blanche s'élancera à 15h30 à Châteauroux en hommage à Mathis. L'adolescent de 15 ans avait été poignardé à mort lors d'une rixe samedi dernier. Entre 3000 et 10 000 participants sont attendus. Le préfet de l'Indre a appelé à la plus grande sérénité et au calme pour cette marche, alors que sur place, le climat reste particulièrement tendu. Hier soir, une dizaine de militants identitaires ont déployé des banderoles devant la mairie de Châteauroux et ont scandé des slogans anti-immigration. C'est une mesure censée, selon le gouvernement, favoriser l'installation de nouveaux exploitants agricoles en facilitant l'acquisition de terres. La création de groupements fonciers agricoles d'investissement est l'une des mesures du projet de loi relatif à la souveraineté alimentaire et au renouvellement des générations. Un texte débattu depuis mardi en commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. Des groupements qui doivent permettre, d'après l'exécutif, de lever l'argent auprès d'investisseurs publics ou privés afin d'acheter des terres et les louer à de nouveaux agriculteurs. Julie Paco, bonjour.
Bonjour Jeanne.
Cette disposition a été retoquée par les parlementaires d'opposition la nuit dernière, qui redoutent un risque de dérégulation.
Effectivement, les députés de gauche comme de droite, ainsi que certains élus macronistes, s'inquiètent des risques de spéculation que pourrait engendrer la création de ces groupements de fonciers agricoles d'investissement. Les oppositions y voient une volonté du gouvernement de financiariser l'agriculture à défaut de pouvoir garantir des revenus aux agriculteurs. Le député RN Grégoire de Fournas.
On va rendre par ce système les agriculteurs finalement locataires à vie d'un outil de production qu'ils ne posséderont plus. Et ça, c'est pas normal parce que les agriculteurs, pour nombreux d'entre eux, ne vivent pas forcément de leur métier, mais au moins ils se constituent un patrimoine.
Une disposition scélérate qui ouvre une brèche dans le modèle agricole défendu depuis la Seconde Guerre mondiale afin de favoriser l'agriculture capitaliste, dénonce la députée LFI Aurélie Trouvé.
Ça va nous amener au modèle anglais. Ce modèle anglais où petit à petit, c'est les grands investisseurs financiers qui sont allés s'accaparer les terres avec une explosion du prix du foncier qui s'est fait au détriment de l'agriculture tout court.
Mais pour répondre au problème de portage du foncier qui permet à l'agriculteur de s'affranchir de la charge financière et assurer la relève agricole, il y a besoin de fonds privés, défend le ministre de l'Agriculture. Oui, mais pas à n'importe quel prix, répond le député socialiste Dominique Potier.
Les fonds privés sont bienvenus dans l'agriculture dès lors qu'ils sont contrôlés par la puissance publique et non pas qu'ils deviennent eux-mêmes les maîtres d'un foncier dont ils feraient un objet de spéculation et non pas un bien commun.
Les oppositions qui appellent donc le gouvernement à respecter ce vote en commission la nuit dernière et à réécrire cet article avant l'examen du texte en séance le 14 mai prochain.
Julie Paco. La gronde d'anticorps face à l'absence de réponse. L'association de lutte contre la corruption dénonce dans un communiqué la mise en attente décidée par le gouvernement de sa demande d'agrément. Un agrément qui leur permet d'intervenir dans les procédures judiciaires. Le tribunal administratif de Paris l'avait annulé en juin 2023 après avoir été saisi par 2 dissidents qui jugeaient que l'association ne remplissait pas tous les critères pour être agréée. Anticorps qui conteste cette décision demande le renouvellement de ce droit depuis près d'un an, demande donc laissée sans réponse de l'État, ce qui inquiète le président de l'association Paul Cassia.
Ce n'est pas prévu par les textes, cette mise en pause, elle n'est pas régulière. On verra si elle est confirmée à la date du 26 mai 2024. Il appartient à Gabriel Attal, le Premier ministre, et à lui seul de prendre une décision en la matière, mais le simple fait que le gouvernement ait inventé une mise en pause de l'examen de la demande d'agrément en dit beaucoup sur la crainte qu'a le gouvernement du contre-pouvoir que nous pourrions représenter et l'absence de respect des procédures administratives. Et il n'est pas contestable et il n'est pas contesté que les 5 conditions pour obtenir l'agrément sont remplies par anticorps. Le gouvernement ne le nie pas. Il emploie en quelque sorte un procédé parallèle, ne contestant pas que nous remplissons les 5 conditions de l'agrément. Il invente un blocage hors les textes, tiré de ce que, comme nous avons contesté les refus d'agrément de 2021 et de 2023, eh bien, ces contestations devant le juge administratif empêcheraient l'examen de notre demande d'agrément formés en janvier 2024. C'est complètement farfelu.
Des propos recueillis par Estelle Kammerer. Un rassemblement est organisé depuis ce matin devant l'hôtel de ville de Lyon à l'appel de plusieurs collectifs et associations pour dénoncer l'expulsion hier soir d'environ 170 femmes et enfants d'un gymnase de la ville. Le collectif avait décidé hier après-midi d'occuper ce gymnase pour dénoncer le manque d'hébergement d'urgence. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi et des averses soutenues sur la majeure partie du pays quant aux températures. Elles afficheront entre 14 et 22 degrés.